With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
C'est vrai que se dégager du temps pour tester des trucs, parce que bah, ça rejoint un peu ce que je disais avant, le côté on sait pas forcément tout ce qu'il y a. On peut pas vraiment savoir soi-même exactement ce qu'on veut si on ne sait pas quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous. Le fait de s'ouvrir à des nouveaux trucs, même si c'est pour décider qu'on n'aime pas, hein, et ben ça aide vachement. Et tu vois, moi je voulais être costumière, mais finalement je suis pas vraiment costumière maintenant. Enfin, si c'est d'un point de vue thune, je suis youtubeuse. Youtubeuse qui fait des costumes, hein, mais tu vois, je pourrais être youtubeuse qui fait du jardinage ou qui raconte des histoires, je sais pas. Donc finalement, le fond, c'est ma passion, c'est la couture, c'est machin, mais la forme, c'est le schéma influenceuse, en fait.
Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interview des créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Dans cet épisode, je reçois Ariel, alias Azariel Costume sur les réseaux. Avec 60 000 abonnés sur YouTube et plus de 53 000 sur Instagram, cette costumière de formation vit de ses vidéos et de ses créations délirantes. Particularité d'Ariel, son travail est en anglais et elle va nous expliquer pourquoi. Ariel, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter ?
Eh bien, bonjour Julien. Moi, c'est Ariel. J'ai une chaîne YouTube principalement en anglais où je fais de la couture, je fais des costumes, je fais... pas vraiment des vêtements, je fais un peu des accessoires ou parfois un petit vlog pour raconter une aventure autour du costume, un truc que j'ai fait. Et voilà, et ça commence à bien marcher, et voilà, et maintenant c'est mon métier à plein temps. Et je m'amuse beaucoup.
Donc toi, tu as une chaîne YouTube en anglais, elle a 60 000 abonnés au moment où on enregistre ce podcast. Et pourquoi en anglais ? Parce que visiblement, t'es française.
Oui, je suis française. Parce que en fait, moi, tout ce que je consomme comme internet depuis 20 ans, c'est que de l'anglais quasiment. Et du coup, je me sentais de me placer. Enfin, tu vois, je commençais à connaître bien la niche de gens que je suivais, que j'aime bien, voilà tout ça. Et donc, je visualisais bien où me placer moi par rapport à ce que j'avais envie de faire. Donc, c'est pour ça. Et l'autre truc, c'est vrai que de parler en anglais, alors même si je suis pas bilingue, hein, mais je parle bien, mais j'ai quand même mon accent machin, c'est que j'avais aussi l'impression que c'était moins stressant, parce qu'évidemment on a super peur de se lancer au début, enfin un balai dans le cul, pardon, faut pas jeter de gros mots.
Ah si, si enfin, non, moi j'adore pas. Les gros mots, je sais pas si les gens qui écoutent aiment. D'accord. Ça. Moi, c'est ma passion.
Pardon, je dis toujours.
Première passion couture, deuxième passion gros mots.
Bon, c'est mal. non, mais ouais, on est toujours un peu coincé, un peu machin. Et du coup, le fait de parler en anglais, même si c'est plus difficile, c'est vrai que ça reste un bâton dans les roues que je me suis mis. Ça m'a aidé aussi à me lancer parce que quelque part, c'était pas moi brute, tu vois. Donc, comme un personnage, un petit peu.
Ouais, voilà, toi tu fais des costumes.
Oui.
Est-ce que le fait de parler anglais, c'était une façon de camper un personnage que tu. Enfin, du coup, effectivement, tu te mets pas à nu devant les gens et tu t'incarnes un rôle en étant devant la caméra.
Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment un personnage, mais rien que le fait de mettre une espèce de couche dans une autre langue, eh ben, ça m'a aidé à me lancer. Ça m'a aidé à me lancer. Parce que vraiment, c'est ça. J'ai mis 2 ans à me lancer sur YouTube. Enfin, pendant 2 ans, je me suis dit, allez, allez, maintenant. Bon, ok, maintenant. Et puis évidemment, rien du tout. Et donc, le fait de faire ça, ouais, ça m'a aidé. Parce que c'est là que ça coince le plus, quoi. C'est d'arriver à se lancer. Enfin, je sais pas si. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont envie, et puis qui se lancent pas. Et c'est vrai que le tout début, c'est super dur. Vraiment, la première vidéo, c'est la plus difficile, je pense.
Complètement. La première vidéo, quand t'as jamais fait ça de ta vie, que tu sais que tu risques d'être jugé parce que bah parce que c'est public et que n'importe qui peut tomber sur ta vidéo, c'est toujours hyper compliqué. Toi, la première vidéo que t'as faite, c'est sur une robe d'un personnage de Miyazaki?
Oui, tout à fait. C'est Sophie du Château Ambulant. Voilà, parce que c'était un costume pas trop compliqué et puis il y avait la petite broderie et tout ça. Mais en vrai, c'est la troisième vidéo que j'ai faite techniquement.
Ah, t'as
Il
supprimé
y
des
en a eu
trucs.
deux avant. Et non, je les ai pas supprimées, je les ai jamais publiées. Mais en fait, je les ai jamais vraiment terminées. C'est juste que deux fois. Enfin voilà, c'était, tu vois, pendant le truc des 2 ans, c'était allez, allez, allez. Et puis tu te lances un petit peu, mais tu finis pas. Puis tu te lances un peu plus, puis. Et donc il y a deux trucs avant que j'ai fait, mais finalement j'ai pas bien filmé, j'ai pas bien plein de trucs, donc j'ai jamais fini les vidéos en question. Donc ouais, donc celle-là c'est celle que la première que j'ai vraiment fini de A à Z, qui est pas ouf. Et en plus j'ai eu un copyright claim dessus il y a pas très longtemps.
Ah merde, à cause des musiques?
Ouais, il y avait une musique au début. Alors je sais pas si ce sera un conseil pour les gens qui écoutent. N'allez pas sur YouTube en cherchant no copyright, blablabla, nanana. C'est de la flûte. Il y a marqué no copyright derrière, mais un an plus tard, ils vont vous dire, ah bah oui, mais c'est ma musique, alors maintenant tu me files toute ta monétisation. Donc surtout ne faites pas ça. Donc heureusement, il y a le truc YouTube où tu peux changer un bout de musique alors que la vidéo est déjà publiée. Du coup, j'ai perdu mon voice-over. J'ai perdu 2 minutes de voice-over, mais bon, c'était pas forcément passionnant ce que je racontais. J'ai préféré changer la musique qu'avoir affaire à des gens chelous.
Que de donner de l'argent à des gens qui le méritent, enfin,
Oui.
qui l'ont acheté, quoi, qui ont acheté les droits.
C'est ça. Alors, c'est une vidéo qui me rapportait au moins 25 centimes par semaine, donc c'est pas. C'est vraiment une question d'argent. C'était plus, tu vois, s'il y a ça derrière, est-ce que je vais avoir d'autres trucs? Est-ce qu'ils vont, je sais pas, réclamer, machin, ou demander que ma vidéo soit enlevée? Donc j'ai préféré ça. Puis bon, comme c'est ma première vidéo, autant sur le moment, je me suis dit, c'est un chef-d'œuvre. Je me dis ça quasiment dans toutes mes vidéos. Je dis, ah, mais c'est merveilleux ce que j'ai fait et tout. Et 2, 3 semaines après, tu fais, mais c'est nul. C'est le rythme, il est nul. Tu parles n'importe comment. Blablabla. Enfin, bref. Donc, c'est pas très grave de
Si ça
zapper
peut
un
te
petit peu.
rassurer, j'ai le même
Ouais.
sentiment, hein.
Ouais.
Quand je sors une vidéo, elle est toujours meilleure que les autres, et puis au bout d'un mois, si jamais je retombe dessus, c'est l'enfer, quoi.
Ah, bah oui,
Le
mais j'ai l'impression que c'est
débit
tout
de
le monde.
parole, le montage, les images, il n'y a rien qui va.
Ah bah oui, c'est
Moi,
ça.
je suis partisan de jamais revoir ces trucs, hein.
Ben, moi, je les regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup au tout début. Enfin, maintenant, maintenant moins. Mais avec ma chaîne, enfin, je regardais tout le temps en fonction des vues des gens. Et je disais, alors ça marche un peu, là et machin, la rétention à cet endroit-là, je vais regarder 15 fois, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Là, je prenais des notes et tout. Puis maintenant, écoute, bon.
Tu laisses aller les choses, quoi.
Ouais, voilà. Mais c'est normal d'être obsédé au début.
Évidemment que c'est normal au début, surtout quand tu as une ambition de percer, entre parenthèses, entre guillemets, sur la plateforme. C'est normal de vérifier, de regarder ce qui marche, de peut-être trouver des astuces pour être plus mis en avant, etc. Je pense qu'on le fait tous, hein.
Ah bah oui. Et puis c'est tellement de travail, enfin tu mets tout ton cœur dedans pendant des semaines, enfin je sais pas combien de temps. Donc évidemment tu surveilles le moindre truc, tu as envie que ce soit bien quoi, tu as envie de faire un truc et puis en plus tu as montré ta tête et tout, enfin voilà, c'est difficile de pas le prendre personnellement si ça marche pas quoi. Donc c'est normal. Mais maintenant bon.
Ouais, je pense qu'il faut se détendre aussi avec le temps et surtout quand ça fonctionne bien. Et se laisser un peu aller pour se concentrer sur ce qu'on fait plutôt que sur un truc qui est un peu plus difficile à gérer, qui est l'algorithme de YouTube et qui est parfois un peu incompréhensible.
Bah ouais, tout. Oui, complètement. Mais bon, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire.
Je te confirme. Comment tu as découvert la couture, toi? Tu avais quel âge quand tu as plongé dedans? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit, bon, tiens, je vais me mettre à coudre.
Oui. Enfin, je sais pas si c'est vraiment, je me suis mis à coudre tout de suite, mais je me suis découvert des paillettes dans les yeux. Je me souviens, j'ai vu le film Les Producteurs. C'est un film, il y a Uma Thurman et bon, je sais plus. Bref, c'est l'histoire de producteurs de Broadway. Et c'est une comédie musicale et tout ça. Et en fait, ouais, c'est les comédies musicales, principalement, qui m'ont soudain mis des paillettes dans les yeux, en mode, mais c'est des habits, mais en fait, non, c'est des histoires. Enfin, on raconte une histoire avec des habits. Enfin, et puis voilà. Donc, c'est vraiment les paillettes et le spectacle et le côté faire un spectacle sur soi. Je sais pas comment dire. Enfin, tu vois, faire un vêtement qui raconte une histoire, qui se met dans le monde dans lequel il est. Et donc j'ai trouvé ça absolument merveilleux. J'essayais de coudre un peu des trucs depuis quelques temps, mais bon, j'avais dû coudre deux tailles d'oreiller que j'avais dû apprendre avec ma grand-mère. Mais c'était pas bon. T'apprends ça comme t'apprends à faire des gâteaux ou des machins. Tu vois, c'était pas.
C'était pas sérieux, c'était vraiment pour
Ouais.
passer le temps avec sa grand-mère,
Ouais,
quoi.
voilà, c'est une activité, quoi, c'est pas une passion. Alors que quand j'ai découvert vraiment les comédies musicales, il y avait le Rocky Horror Picture Show aussi. J'ai commencé à faire quand j'étais jeune au lycée et pareil, ouais, c'était des blagues, de la musique, des paillettes, enfin voilà, c'est comme ça que voilà, la passion est née.
Du coup, vers 15 ans?
Un peu plus tard, peut-être 17, 18, en tout cas ça.
D'accord. Oui, c'est pas un truc de c'est pas une passion qui remonte à la petite enfance pour le coup.
En rétrospective, j'ai trouvé des dessins et des machins. Je fais, ah, il y avait un truc quand même, mais non, c'est là que j'ai fait la connexion avec voilà, c'est les costumes. C'est pas tant la couture que c'est les costumes.
D'accord, ouais. Et du coup, à partir du moment où tu as cette passion qui naît, est-ce que tu te réorientes pour en faire ton métier ou il y a eu des chemins dans tous les sens?
À partir de là, j'ai essayé de faire plus de trucs. Alors c'était pas ouf, hein. Mais en fait, j'ai dit avec le Rocky Horror, donc j'étais dans la troupe, j'étais dans le cast et voilà, on faisait ça toutes les semaines et c'était génial et tout. Et en fait, fallait refaire des costumes de temps en temps. Donc, enfin, moi j'avais une machine à coudre en fait que ma mère m'avait donnée quand j'avais 15 ans, que j'avais un petit peu utilisée, mais peut-être pas tant que ça. Et en fait, avec ça, voilà, je me suis mis à faire des trucs, alors que ce soit à réparer d'abord et puis après en faire, et puis il y avait des séances spéciales avec des thèmes. Je dis, ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Les possibilités étaient infinies. Bon, les résultats étaient pas dingos, mais c'était tellement marrant à faire que voilà, je me trouvais là-dedans. Mais c'est 10 ans plus tard que je me suis réorientée, que j'ai fait une école de couture. À l'époque, voilà, j'étais encore étudiante, j'étais en physique, donc rien à voir.
Et t'as fait quoi alors du coup comme formation couture?
J'ai fait S-Mode, je sais pas si tu connais, c'est une école de mode à Paris. J'ai fait la formation intensive, parce que comme j'étais un peu plus âgée, je sortais pas du lycée, ça valait. Puis c'était, comme c'est super cher aussi, autant le faire à fond pour faire une année de moins. Et donc j'ai découvert que je détestais la mode. En tout cas, le prêt-à-porter, quoi, comment fabriquer des collections, comment machin. Enfin, enfin vraiment, c'était pas pour moi. Mais la deuxième année, je me suis spécialisée en création de scène. Et là, heureux, je me suis dit, ouais, c'est là qu'il y a un truc. Et c'était super. Vraiment, j'ai adoré Esmod. Et du coup, grâce à cette école, j'ai trouvé un boulot au Manoir de Paris.
Ok.
Je sais pas si tu me connais.
Le Manoir de Paris, c'est une espèce d'attraction dans Paris de maison d'horreur, maison de...
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une maison hantée, il y a plein... Je sais même pas si ça existe encore, parce que ça fait longtemps que je sais plus. Je pense que oui. Et en fait, il y avait 40 acteurs à habiller, et le thème, donc c'était des thèmes d'horreur, mais c'était... de tout, en fait, ça changeait souvent. Il y avait des trucs un peu magiques, un peu des trucs mystérieux, puis il y avait des trucs historiques, puis il y avait des trucs juste un peu post-apocalyptiques, ou... enfin vraiment, il y avait plein de trucs différents. Et c'était trop cool, en fait, parce que je travaillais avec des gens vraiment trop sympas, trop marrants. Il y avait plein de jeunes acteurs, il y avait des nanas qui faisaient des effets spéciaux, c'est du maquillage d'effets spéciaux, on faisait des décors, enfin vraiment c'était, voilà, c'était assez effervescent d'un point de vue création, tu vois. Et comme il n'y avait pas forcément une ligne, tu vois, c'est pas comme un spectacle où tu avais une ligne directive claire et nette, et genre on fait ça, on avait, je sais pas, beaucoup de liberté créative, et donc ça, tu vois, ça...
Tu pouvais proposer des choses, tu pouvais improviser.
Ah ouais, ouais, ouais.
D'accord.
Dès le début, pas mal. Et puis après, je suis devenue chef costumière là-bas. Donc, j'ai limite, il me donnait... Enfin, il me laissait faire un peu ce que je voulais. Le budget était, bon, pas gigantesque, mais quand même un peu. Enfin, voilà, je proposais plein de trucs et tout. Franchement, c'était super.
Donc ça, c'est ta première expérience pro en tant que costumière. Et ensuite, parce que maintenant, t'es plus à Paris. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, bon, t'en as eu marre, hein, comme beaucoup d'anciens Parisiens.
Oui. tout à fait. Non, mais je... C'est l'amour.
Ah.
non, je me suis mis en couple avec quelqu'un et on a commencé à chercher un appartement à Paris. Et on a fait... Fouf, c'est cher. Hein.
Et t'étais intermittente en plus, j'imagine, avec le Manoir de Paris.
Ouais, j'étais donc, intermittente.
Pour trouver un appart Showtime.
Ouais, voilà, c'était compliqué. Bon, ça va, j'étais pas la pire... intermission, quand t'es technicien, c'est moins difficile que quand t'es artiste, je sais pas, quand t'es acteur ou chanteur, c'est... Quand t'es technicien, il y a du boulot, quoi. Enfin, quand tu vas trouver un truc, il y a beaucoup de travail à faire, donc il y a moyen de faire tes heures. C'est plus compliqué, évidemment, pour d'autres. Donc moi, j'arrivais à faire mes heures. Même un peu trop, d'ailleurs, j'en pouvais plus par moment. Mais bon, ça, c'est la vie d'intermittent. et donc, ouais, finalement, on a regardé. Et puis, bon, on allait plutôt à Montpellier parce que c'était moins cher. Et parce que, voilà. Et puis aussi, le soleil. Et puis, Paris, ça devient pesant au bout d'un moment, je pense. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, ouais, je suis allée à Montpellier. Et comme je venais d'avoir mon intermittent, je me suis dit, bah, je vais pas chercher de boulot tout de suite. Et du coup, ça m'a permis de faire mes trucs un peu dans mon coin. Et mais après, je me suis plus orientée vers le décor.
Ok.
Donc je faisais des trucs pour des événements, pour je sais pas, il y avait les grands cinémas là qui faisaient souvent des décors pour des films qui sortaient. Je me souviens, on avait fait plein de décors pour Star Wars, l'épisode 7. Ils nous avaient fait faire des vaisseaux crasher dans le hall du truc et tout. Franchement, c'était trop cool. Donc j'étais plus dans le décor. Je faisais des sous-marins, des choses comme ça. Les années suivantes, pas trop de costumes. Les costumes, ça devenait plus personnel pour moi. Ou pour du GN. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le GN.
Le GN, ouais.
Le jeu de rôle grandeur nature.
Moi, j'en ai fait un petit peu, mais je me costumais pas.
Ah.
Je pense que je faisais les photos et c'était bien mieux, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de couture, pour le coup. Mmh. Et puis, de toute façon, c'est hyper compliqué de faire des costumes de... Alors, attends, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, le GN, c'est... Enfin, ça veut dire grandeur nature, mais comment expliquer ? C'est de la reconstitution folklorique ?
Bah, le terme complet, c'est jeu de rôle, grandeur nature. Donc c'est important, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est une histoire, c'est machin. Allez, on joue à je sais pas quoi, un univers qu'on aime bien, le plus classique, on va dire Seigneur des Anneaux, ce que tout le monde connaît. Et donc, bah, on est tous ces personnages dans cet univers. En général, il y a des organisateurs et des organisatrices qui écrivent des backgrounds pour les personnages, qui écrivent une histoire, un machin, un truc. Et toi, en général, tu payes et c'est un week-end. Souvent, c'est en camping, mais pas forcément. Et puis, tout le monde est en costume et puis on joue ensemble, quoi. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de machin. Tu joues pour le plaisir de jouer. Et puis, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu Il y a du Seigneur des Anneaux, parce que c'est le plus facile, parce qu'on a plein de forêts et de châteaux en France, mais il y a des trucs post-apocalyptiques, il y a des trucs hyper réalistes, t'as des trucs très sérieux, t'as des trucs historiques, t'as des trucs, je sais pas, romantiques, t'as des trucs Star Wars. C'est vraiment marrant, hein. Vraiment, je recommande de tester au moins une fois, c'est vraiment rigolo. Hein. Les émotions les plus intenses que j'ai eues, c'est en GN.
Et toi, tu commences à faire du GN à ce moment-là, quand t'arrives à... Enfin, après t'es arrivé à Montpellier.
Ouais, c'est ça. Et donc, de faire des costumes juste pour le fun, et de créer ses personnages et tout ça, donc ça, c'était trop cool. Je fais toujours, d'ailleurs. Bon, avec la bande amie, il y a eu une petite pause, mais voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc pour les costumes, voilà, c'était... j'ai dû en faire deux payés par des gens que je connais, tu vois. Enfin, en tant que... Leur faire leur truc dont ils avaient envie. J'ai fait deux, trois robes de mariée, parce que d'un point de vue technique, c'est assez semblable, même si c'est pas très intéressant. Enfin, les robes de mariée, c'est pas très fun, quoi. Enfin, c'est... Même les robes de mariée un peu insolites... Faut vraiment qu'elle soit très insolite pour que ce soit rigolo, quoi. Sinon,
Les robes de mariée, en plus, t'as la tension, j'imagine, de la mariée qui veut que ce soit parfait et que. Et il y a un délai. Enfin, tu me diras, pour les costumes aussi, il y a des délais, mais.
Oui. Oui, mais bon, après, moi, j'ai eu des mariées très, très gentilles, donc. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Non, non, c'est plus. Je pense que c'était pas trop mon truc, quoi.
Ok.
Voilà. Donc là, on en est à quelques années à travailler qu'à moitié parce que Montpellier c'est moins cher que Paris aussi, donc ça joue, hein. Sur le temps libre, le machin, tu peux te permettre de, voilà, travailler moins. Enfin, moi je pouvais, et puis bon, j'ai pas d'obligation, tu vois, j'ai pas d'enfant, j'avais pas de voiture, pas de dette, voilà, je sais que je suis très privilégiée de ce côté là d'un point de vue du temps disponible. Et du coup, à force de faire mes trucs dans mon coin, bah ouais, j'avais envie de les partager sur YouTube, parce que je passais ma vie à regarder YouTube, enfin toujours d'ailleurs. et donc voilà, on en revient aux 2 ans à se dire allez maintenant. Et puis et voilà, c'est ça.
Allez, go.
Et donc ouais, je me suis lancée il y a 1 an et demi, c'est ça.
Aujourd'hui, c'est ton métier. On peut dire que t'es YouTubeuse, ou en tout cas t'es créatrice de contenu, de vidéos, de couture sur les réseaux.
Oui, enfin, je pense qu'on peut dire que c'est mon activité principale depuis le début. Mais dans notre monde capitaliste, l'important, c'est l'argent. Depuis quelques mois, on peut dire que c'est mon métier à plein temps, où je gagne suffisamment pour... depuis que je gagne au moins le salaire minimum, c'est mon métier. Ouais.
Oui, tu pourrais arrêter tout ce que tu fais autour et faire que ça, quoi.
Ah bah,
et
maintenant, payer, je fais que ça.
Payer ton appart, ta bouffe... Ouais.
Maintenant, oui. Là. Mais en fait, quasiment dès le début, où je me suis dit, bon, allez, je me lance à fond, et puis on verra bien, et puis allez, on verra dans 6 mois, et puis hop. Puis quand, dans 6 mois, tu fais, ah, ça a l'air un petit peu, je vais voir, et puis 6 mois après, ça a commencé vraiment à marcher. C'est au bout de, ouais, de 1 an et 1 mois que j'ai été monétisée, je crois.
Ok.
Et en fait, très vite, ça a monté beaucoup, quoi, les possibilités, comment on dit, les
opportunités,
voilà, exactement, merci. C'est ça, les opportunités viennent assez vite, en fait, avec les vues, donc voilà. Et maintenant ça va. On est en décembre, c'est les bons mois en décembre, on verra en janvier si tous les chiffres descendent. C'est ce que tout le monde dit.
Ah, je te confirme, ouais. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent, je suis désolé d'avance, mais YouTube va mettre énormément de pubs sur toutes les vidéos, là, à partir du Black Friday jusqu'à Noël, quoi. Ça va être l'enfer.
Ouais, même si t'en mets pas, même si tu mets pas des coupures et des machins, c'est fou, hein. Même les gens pas monétisés, bam, vidéo partout, pub.
Exactement. Mais alors, pour les créateurs, ça fait gagner un peu plus d'argent, vu qu'il y a plus de pubs, mais on n'a pas vraiment moyen de les virer, et... Quand tu regardes ta timeline, il y a des pubs toutes les 4 minutes, quoi.
Ah ouais, ouais, moi si j'enlève pas, et parfois j'en ai vu une, il m'avait mis une pub toutes les, je sais plus, ouais, 3 minutes. C'était fou que j'ai dû manuellement tout enlever et vérifier chaque truc pour être sûr. Puis en plus avec, tu sais, des overlays, enfin vraiment, tout, quoi. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas, mais enfin moi j'aime pas, donc j'essaye de pas trop en mettre.
Ben moi je paye YouTube Premium, donc c'est vrai que je... Et avant j'avais un bloqueur de pubs, donc...
Ouais.
Et le bloqueur de pub, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, purée, je regarde des mecs ou des nanas que j'aime bien et je leur donne pas un rond. Et donc, je suis passé sur YouTube Premium pour donner un peu d'argent.
Ouais, je pense que je vais passer aussi, ouais. Que ce soit pour ça ou pour pouvoir regarder sur mon téléphone sans pub.
Franchement, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à bloquer les pubs.
Ouais, franchement, ça se comprend. Hein. Vous pouvez bloquer les pubs.
Non, mais surtout en cette période.
Oui.
Qu'est-ce que tu préfères, toi, en couture ?
J'aime bien les contraintes.
Oh là, et la réponse de Fayot, quoi. Pardon, hein. On se connaît pas, Ariel, je suis désolé, mais vraiment. Alors, j'adore quand c'est hyper compliqué et que j'ai envie de jeter ma machine par la fenêtre, je te jure.
Ah non, non, pas ce genre de contraintes. Pas les problèmes.
Ah, pardon.
Les contraintes. Genre, tu vois, un thème précis, ou démerde-toi avec ces matériaux, tu vois, ça j'aime bien. Ou utiliser des matériaux bizarres, ou faire un thème à la con, ou faire des blagues, enfin, tu vois, trouver une façon de rendre quelque chose intéressant. Ça, vraiment, ça, j'aime bien.
La dernière contrainte que tu as eue ?
C'est que je suis en train d'utiliser un matériau qui s'appelle du tissu fibre optique. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
J'ai vu ta vidéo, surtout.
Ah bah voilà. Donc, je suis en train de refaire un truc avec. C'est un matériau incroyable qui fait de la lumière et tout, mais c'est super compliqué à utiliser parce que, voilà, il y a plein de... Tu ne peux pas l'utiliser dans tous les sens, il faut mettre des fils partout... Tu peux pas couper des courbes, tu peux pas faire des trous dedans, sinon tu coupes la lumière. Enfin voilà, il y a plein de problématiques et du coup ça fait des problèmes intéressants à gérer. Voilà, donc ça c'est très cool.
Pour les gens qui nous écoutent, c'est un tissu en fibre optique, comme tu l'as dit, que tu es obligé de brancher, ça fait des lignes de lumière et quand tu pinces ou quand tu t'appuies un tout petit peu sur la fibre, ça la casse et du coup il y a une sortie de lumière à cet endroit-là qui se met à... Enfin, c'est un peu plus lumineux à cet endroit ?
Ouais, c'est un peu ça. C'est, en fait, c'est un tissu, c'est une toile. Et en fait, dans un sens, t'as plein de petits fils, donc de fibres optiques qui sont... C'est du fil de pêche, en fait. C'est une sorte de fil de pêche transparent. Mais du coup, quand tu mets une lumière à un bout de cette fibre, eh ben, elle est transportée dans la fibre. Et là, sur le tissu, la fibre elle-même, elle est un peu râpée. Enfin, en gros, il y a plein de petits trous, quoi, on va dire, petites éraflures sur le long du tissu. Et du coup, la lumière sort un peu partout sur le tissu. Donc évidemment, ça fait que tu as des pertes de lumière. Donc au bout de ta fibre, tu as moins de lumière qu'au tout début.
Donc il faut le prendre en compte.
Et si jamais tu coupes la fibre, ouais, voilà. Et si tu coupes la fibre au milieu, bah, évidemment, tout la suite, il n'y aura plus de lumière, quoi. Et pareil, si tu peux pas trop la plier, tu peux pas trop machin, mais tu peux quand même faire plein de trucs avec. Non, c'est vachement intéressant. Et donc tu branches ton espèce de guirlande lumineuse à un bout et voilà pour transporter la lumière. Donc faut penser à mettre les batteries, faut penser à voilà, ça implique plein de trucs. Tu peux pas faire n'importe quoi avec, mais c'est super intéressant à utiliser.
T'es en train de faire un chaperon avec ce matériau, c'est ça ?
J'ai fait une petite cape. J'avais fait une petite cape que j'ai utilisée pour mon truc, pour faire une petite cape champignon. C'était très mignon. Et là, je viens de finir une grande jupe. En fait, je voudrais faire une grande robe lumineuse, mais je vais mettre des épaisseurs plus tard, je pense. Je sais pas encore le thème. Je pense que je voudrais faire une espèce de galaxie avec, je sais pas, des planètes qui tournent autour. Ce serait trop bien. Mais bon, pour l'instant, c'est juste une grande robe qui fait de la lumière. Et la lumière, tu peux la changer de toutes les couleurs, tu vois. Elle peut clignoter arc-en-ciel. Enfin, c'est trop drôle, quoi. T'as plein de possibilités. Mais voilà, mais c'est très compliqué à utiliser et ça coûte un bras. Donc j'essaye de faire une couche que je puisse utiliser avec plusieurs costumes différents. Tu vois, de faire une base lumineuse et puis par-dessus, je sais pas.
Changer des accessoires et des choses pour modifier tout ça sans.
Une couche transparente avec des trucs. Je voudrais faire des vitraux, tu vois, faire un effet cathédrale et tout, ça pourrait être trop cool. Mais avec toujours la même base lumineuse. Enfin, voilà, donc je suis là-dessus.
Incroyable. Je sais plus où j'ai vu ça parce que j'ai l'impression que c'est pas sur YouTube que t'as. Mais si, c'était sur YouTube cette vidéo.
J'ai fait ça sur YouTube, après j'ai dû poster des machins sur Instagram.
Je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu où tu découpes ce truc-là, effectivement. Et la lumière se coupe juste après que t'aies donné le coup de ciseau et tu expliques qu'il faut faire gaffe de pas casser une des fibres parce que sinon t'as un long fil noir, comme si on filait un bas, j'imagine. T'as un long...
Ouais, un peu. Mais ça peut être utile. Tu peux faire des rayures. Tu peux faire... Enfin, voilà, ça ouvre des possibilités de ouf.
C'est un travail incroyable en tout cas.
Mais c'est une compagnie qui m'a envoyé le tissu gratuitement. Parce que ça coûte tellement cher, je pense que j'aurais jamais acheté ça. Mais voilà, pour eux, ça leur fait de la promo, puis moi, ça me... Enfin, je suis totalement passionnée par ce truc. Mais ils l'ont envoyé à d'autres gens, donc c'est peut-être d'autres gens aussi que t'as vus qui ont fait des machins avec.
Non, c'était toi.
D'accord.
Non, c'est sûr que c'était toi, mais je retrouve pas les vidéos, je sais pas. Je pensais que c'était la dernière, mais je vois que non. Donc c'était peut-être celle juste avant. Ben non. C'est une vidéo qui a bien marché. Ah voilà,
c'est ma vidéo qui a le mieux marché, alors que le résultat est un peu pourri parce que c'est pas fini.
Voilà, il y a 2 mois. I made a ghost cape out voilà. of light.
1, 2, 3, 4, 5, 5e vidéo. Ouais, c'est ma vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne. Je pense que c'est le thumbnail. Alors que le résultat final, c'est la suivante, tu vois.
D'accord.
C'était pour le champignon. En gros, j'ai fait la base de lumière et puis après, j'ai fait mon petit champignon par-dessus. Voilà.
Ouais, mais rien que ton explication de... Enfin, moi, je connaissais pas ce genre de tissu, donc rien que le fait de découvrir ce genre de tissu, de voir comment il se travaille à peu près, que tu nous expliques un petit peu bah, qu'il va falloir que tu caches tout ce que tu disais, les batteries et le système de connexion dans la... enfin, au niveau du col. Enfin voilà, c'était hyper intéressant et c'était en anglais, mais j'ai à peu près compris.
Ben voilà. Écoute, je te filerai le lien. J'ai un code de 10%. Mais ça coûte...
Pour le tissu ?
Ouais. Mais ça coûte 135 balles le mètre, donc voilà.
Ah ouais, c'est un peu
oui,
cher.
Un peu cher.
Ouais, mais 10% dessus, du coup, c'est pas mal.
C'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du coup, alors, ce que tu préfères, c'est les contraintes. Qu'est-ce qui te déplaît le plus en couture ?
Les habits. Faire des trucs... faire des trucs utiles. C'est terrible, hein, parce que c'est vachement utile, les habits.
Dit comme ça, c'est bizarre.
Genre, tous les jours, j'ai besoin d'habits. Tous les jours, je me dis, oh là là, j'ai vraiment des trous dans mes habits, il faudrait que je m'en fasse. Et puis, j'en fais pas parce que, je sais pas, l'étincelle est pas là. Alors que c'est trop cool, enfin, tu vois, j'aimerais vraiment bien.
Attends, là, tu portes un habit que tu t'es fait.
C'est vrai, j'ai fait tout sur moi, mais c'était pas très excitant à faire.
Quand on voit les costumes que tu fais, effectivement, c'est un peu plus... un peu moins coloré, un peu moins exubérant, c'est sûr.
Enfin, c'est sympa, mais c'est pas... Oui, c'est utile, c'est intéressant, et ça reste cool à faire. Enfin, la couture, je pense qu'il y a un côté méditatif. Enfin, je sais pas, faire des trucs de ses mains, je pense que ça fait du bien à tout le monde, donc ça reste quand même... voilà, c'est pas horrible, hein, du tout. Hein. Mais c'est pas fun comme d'autres trucs que je fais, et que je mets 100 heures à faire, et que je mets une fois, et après, ils sont dans un placard pour toujours, tu vois. C'est pas le fonctionnement le plus logique, mais c'est vrai que les trucs les plus utiles, c'est les choses qui m'excitent le moins à fabriquer, ouais.
Qui te passionnent le moins.
C'est okay. Dommage.
Ça peut se comprendre. Tu fais des trucs tellement originaux, en tout cas qui sortent de l'ordinaire, que ça, on peut comprendre que les trucs un peu plus... pas classique, mais un peu plus, oui, terre-à-terre, utile, comme tu dis, sont moins excitants, c'est vrai.
Ouais, c'est ça. Peut-être on pourrait comparer ça à, je sais pas, un pâtissier, tu vois, qui fait des gâteaux super incroyables tout le temps, mais bon, des fois, il a aussi besoin de se faire une petite salade, et voilà, donc c'est pas... C'est cool, hein, mais bon. je sais pas, je sais pas si la comparaison est justifiée. Et c'est pas pour dire que les gens qui font ça, c'est nul ce qu'ils font, hein, du tout. Au contraire, je trouve ça trop bien. Et même, je regarde des vidéos de gens et voilà, et ça me plaît. Mais quand il vient le temps de le faire moi, la motivation est plus difficile à trouver.
Par ta formation et je pense ton expérience, je regardais tes vidéos, tu as une très bonne technique. On voit que tu maîtrises quand même vachement bien le sujet. Est-ce que tu as une astuce couture à nous partager? Un truc en couture qui change la vie à partir du moment où on le sait, où on l'apprend?
Sur la technique, bon, c'est un peu bateau, mais c'est le repassage.
Ok.
Ça change tout, quoi. Repasser les coutures quand vous avez fait vos coutures. Enfin, ça, visuellement, je trouve que ça élève énormément ton truc. Dès que tu repasses tes coutures et que tu fais des trucs propres et que tu repasses ton tissu avant de le couper et tout ça. Ça, c'est sur la technique. Et ensuite, sur la création, je dirais... garder l'esprit ouvert et tout regarder. C'est-à-dire regarder les gens qui fabriquent tout et n'importe quoi et garder l'esprit ouvert, même si ça vous plaît pas trop, même si peut-être vous trouvez ça moche, peut-être voilà, de se dire oui, mais c'est intéressant la façon dont on utilise ce matériau ou dont on a pensé ça, comment est-ce que moi je pourrais l'incorporer dans mes créations. Et enfin, moi je regarde plein de trucs. Je sais pas, des trucs de patchwork ou de machin où je dis oh là là, qu'est-ce que c'est moche, mais qu'est-ce que c'est intéressant, tu vois. Et comment est-ce que moi je pourrais le mettre dans mes costumes qui servent à rien, tu vois. Le côté. Et il y a ça sur un peu tout, sur. Je sais pas, les gens qui font de la menuiserie, les gens qui font de la sculpture, tu vois, comment, machin. Et je mets ça aussi dans mes vidéos. Je regarde les vidéos des gens et maintenant j'ai un œil critique, tu vois. Mais même sur des films ou sur des trucs, je me dis « Ah, mais ça, c'est une trop bonne idée, je pourrais le faire. » Bon, alors, je dis pas que je fais tout bien et que, hop, je sais tout faire une fois que je l'ai vu, ni rien. Hein, mais le côté être une éponge. ouais.
S'imprégner de tout ce qu'il y a, c'est ça. De tout ce qu'on voit.
De tout ce qu'on voit, de tout ce que créent les gens autour de nous. Il y a peut-être tout à prendre. Bon, c'est un peu vague comme conseil, mais voilà. Même si on n'aime pas un truc, il y a forcément quelque chose à en tirer.
Non, enfin, moi, c'est un conseil que je donne aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où moi, j'ai commencé à faire de la couture, j'ai été hyper attentif, justement, aux vêtements, à ce que portaient les gens, à comment ils se comportaient, comment, dans la démarche, ce que ça changeait d'avoir telle ou telle forme de fringue et tout. Et effectivement, je m'inspire aussi de ce que font les autres dans d'autres domaines.
Eh oui, oui. Ouais, c'est ça.
Qui n'ont rien à voir avec la couture, que ce soit le domaine du jeu vidéo, par exemple, domaine de la qu'est-ce qu'il y a ? Oui, de la construction. Je tombe sur des vidéos de types qui font du carrelage. J'en ai rien à faire. Mais c'est filmé d'une telle manière, la progression du truc me captive.
Okay,
et j'ai envie de voir le truc fini. Alors que vraiment, j'habiterai jamais dans cette baraque, le carrelage est moche, mais le fait de le voir posé comme ça, ça me sidère.
Ouais, tu vois les gens travailler avec leurs mains, et puis peut-être les motifs, et puis peut-être les couleurs, et puis peut-être la façon dont on le présente, tu vois, c'est la façon dont quelqu'un te raconte une histoire, même si t'aimes pas l'histoire, c'est cool aussi de voir comment partager, quoi.
Oui, c'est ça. Le fond de l'histoire ne m'intéresse pas du tout, mais la manière dont elle est racontée est cool, quoi. Tout à fait. Ok. Quels sont, Ariel, tes projets à venir? Dans 5 ans, toi, tu te vois comment? Ou dans moins longtemps que ça, hein. Mais en gros, qu'est-ce que... En 2025-2026, on te retrouve où? Et tu fais quoi?
Alors, si la planète existe encore... ce qui est...
Je pense que la planète existera. Est-ce qu'il y aura encore des humains dessus? Moins sûr.
Mais écoute, ça change tout le temps parce qu'en fait, comme là, ça commence à marcher de plus en plus et de plus en plus rapidement. J'avoue que mes plans changent un peu tout le temps. Je dirais que pareil, mais en 10 fois plus gros. Et si possible, avec des gens. Payer des gens pour faire les trucs que j'aime pas faire. J'imagine que c'est tout le monde, hein, qui a envie de ça. J'aimerais bien avoir une équipe. Je sais pas si ça arrivera, hein, mais des gens pour m'aider sur le montage ou sur les réseaux sociaux et les trucs comme ça pour avoir quelque chose qui tourne avec des gens sympas autour de moi. et pouvoir continuer à faire ça beaucoup plus en fait. Parce que je me rends compte depuis que je fais des vidéos YouTube, je fais vachement moins de couture. Parce que je passe un temps fou sur le montage, sur filmer, sur les réseaux sociaux, sur gérer les sponsors, les trucs administratifs, blablabla. Donc en fait, je fais moins de couture et j'aimerais bien que ma vie ce soit que de la création et des jeux vidéo. pour gagner un peu de temps, ce serait cool de pouvoir payer des gens pour faire des trucs que t'as pas envie de faire. Mais c'est pas très rêveur comme image. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est créer une communauté de gens dans le costume en France. En gros, de pouvoir avoir un vrai réseau de passionnés. Parce qu'il y en a quelques-uns, mais un peu séparés, je trouve, des trucs dans le costume historique ou des trucs dans le cosplay ou des trucs dans la scène et tout ça. Et trouver un moyen de réunir un peu tous ces gens, que tous ces gens se parlent pour faire plein de créations et tout ça. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu trop professionnel, faudrait que je monte une troupe, mais je sais pas.
Et y a pas une espèce de concurrence aussi entre les gens qui font du costume historique et du cosplay? C'est pas des gens qui se détestent? Je veux pas lancer des polémiques entre vous, hein. Je connais pas bien le milieu, mais j'ai l'impression que le costume historique, c'est quand même quelque chose de très précis et avec des gens un peu bloqués sur l'aspect historique, justement, et respecter le costume tel qu'il était fait à l'époque, alors que le cosplay, c'est du coup beaucoup plus fantasy et drôle, hein, pardon.
Alors il y en a, c'est vrai, t'as raison, mais je pense pas que ce soit tout le monde. Parce que j'en connais pour qui c'est pas du tout le cas, mais je pense qu'il y a des gens coincés et bornés dans ce sens-là dans tous les domaines, hein. Il y a des gens qui sont dans le cosplay et qui sont ah non mais il faut faire ça comme ça et ça comme ça et ça comme ça, et les gens qui font comme ci ou comme ça c'est nul, ils sont pourris. Mais je vois aussi des gens comme ça, je sais pas, dans la couture, qui se disent non mais les costumes c'est pour les enfants, c'est débile, enfin tu vois, des gens fermés en vrai. T'auras ça dans tous les domaines. Alors après, je suis pas avec les gens qui font de la reconstitution hyper pointue de trucs un peu machin, ou parfois c'est un peu pas très, des milieux pas très sains. Enfin, je sais que y a des gens qui aiment bien la reconstitution historique de la Deuxième Guerre mondiale et pas du côté français. Tu vois le genre. Mais c'est pas beaucoup de gens.
Je crois pas qu'il y ait de mots bannis sur les podcasts. Tu peux dire nazi sans te faire striker. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Il y en a, mais c'est pas du tout tout le monde. Et t'as plein de gens sympas. Et puis t'as plein de gens qui s'intéressent. Et parfois, les gens s'intéressent pas, mais c'est parce qu'ils connaissent pas, tu vois. Donc, le côté faire découvrir ça. Et aussi, j'aimerais bien être quelqu'un qui puisse permettre ça. Genre, tu vois, il y a des gens qui me disent « Ah mais non, mais pour moi, le cosplay, c'était des gens qui font Naruto avec des costumes moches, machin. Je pensais pas que ça pouvait être des robes comme ça, avec des broderies, des trucs comme ça. » Et qui, du coup, découvrent. Et pareil dans l'autre sens, tu vois, des gens qui sont à fond sur, je sais pas, le théâtre ou le cosplay. Et qui disent « Ah ouais, en fait, on peut aller peut-être du côté plus mode, on peut créer ses propres designs sans être forcément exactement le personnage bidule. » Enfin, tu vois, le côté faire des ponts entre plein de trucs.
Je vois.
Je dis pas que chaque truc est pas bien, hein, c'est bien aussi, mais de pouvoir aussi se dire « Ah, je pourrais faire ça. » Ouvrir le champ des possibles pour tout le monde, ce serait trop cool. Enfin, quand ça arrive, en tout cas, quand il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu m'as fait découvrir ça, et maintenant, j'aime bien, c'est trop cool », ça me fait tellement, tellement plaisir, j'aimerais bien le faire plus.
Ce serait cool un jour de réunir tout ce monde et de voir ce qui va en ressortir, quoi.
Ouais, c'est ça, de donner la possibilité aux gens. Parce qu'après, on peut ne pas avoir envie, il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Mais il y en a plein, en fait, qui pourraient, mais comme on ne sait pas...
Ils n'ont pas l'idée que c'est possible.
C'est ça.
Ou que ça existe.
Et je me mets dedans aussi, hein, parce que régulièrement, je découvre de nouveaux trucs. Je dis « Ah, mais comment j'ai pas entendu parler de ce truc-là ? C'est incroyable, tout ça. » Ou alors, j'aime pas, mais savoir.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer et faire comme toi sur les réseaux ?
Ah, genre se lancer sur YouTube ou tous les réseaux ?
sur les réseaux en général et vivre de sa passion, en fait, vivre de la couture d'une manière un peu différente qu'en étant couturière ou... Enfin, tu vois, quand j'imagine que la plupart des gens qui font des écoles de mode derrière finissent stylistes dans une grosse boîte de prêt-à-porter, parce que c'est là que ça recrute, ou technicien dans une usine ou quelque chose comme ça.
Mais c'est vrai que...
Toi, tu as quand même un parcours un peu différent et qui...
Bah...
Voilà, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme toi et que ça marche
Alors, je ne sais pas déjà si mes conseils, je peux, tu vois, me permettre de donner des conseils à tout le monde parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis vachement privilégiée dans le côté... j'avais pas de loyer, pas d'enfant, tu vois, du temps libre. Je sais que ce n'est pas accessible à tout le monde. Même si je n'avais pas trop de budget pour mes trucs, tu vois, ça reste quand même une position qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, je sais que la position de chacun est différente, mais c'est vrai que... se dégager du temps pour tester des trucs parce que bah, ça rejoint un peu ce que je disais avant, le côté on sait pas forcément tout ce qu'il y a, on peut pas vraiment savoir soi-même exactement ce qu'on veut si on sait pas quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous, donc le fait de s'ouvrir à des nouveaux trucs même si c'est pour décider qu'on aime pas et ben ça aide vachement et tu vois, moi je voulais être costumière mais finalement je suis pas vraiment costumière maintenant. Je suis, enfin, si c'est d'un point de vue thune, je suis youtubeuse. Youtubeuse qui fait des costumes, hein, mais tu vois, je pourrais être youtubeuse qui fait du jardinage ou qui raconte des histoires, je sais pas. Donc finalement, le fond, c'est ma passion, c'est la couture, c'est machin, mais la forme, c'est le schéma influenceuse en fait.
Oui, techniquement, tu fais des vidéos et c'est plus vraiment, enfin ça pourrait être des vidéos d'autre chose quoi.
Oui voilà, la forme c'est ça, mais si le fond, tu vois, je pourrais être costumière, je sais pas, dans une troupe, je pourrais être, je sais pas, travailler dans une usine, travailler dans voilà. Donc en fait, avec la passion, il y a vraiment plein de formes différentes de d'en vivre, mais c'est vrai que ça reste pas facile du tout, et je comprends qu'il y ait plein de gens qui se retrouvent dans des métiers peut-être un peu pas exactement ce qu'il voulait au début, même s'il n'y a pas de mal à travailler dans le prêt-à-porter ou quoi. Hein, mais donc, attends, la question, c'était quel est le conseil ? Ouais, bah, le conseil, c'est...
Qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que ça a marché pour toi ? Moi, par exemple, je sais que ce qui a fonctionné, c'est la régularité. Le fait de sortir régulièrement des vidéos, pour moi, ça a eu un impact parce qu'il y a eu une espèce de rendez-vous avec les personnes qui aimaient bien ce que je faisais.
Alors, moi, je ne suis pas aussi régulière que toi. Je fais 2 vidéos par mois à peu près, parfois 3, mais vraiment, je suis au bout de ma vie quand j'en fais 3. Et c'est vrai que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans mes vidéos. Et pour moi, c'est plutôt ça qui paye. Enfin, j'ai vraiment plein de gens qui disent, mais d'où une chaîne pareille à si peu d'abonnés et tout, au début. Hein. Et du coup, l'effort faisait que vraiment les gens avaient une bonne expérience et donc ils s'abonnaient. Alors même s'il n'y avait pas une vidéo par semaine... Bah, en général, quand elle sortait, en tout cas, l'algorithme le mettait en avant parce que les gens y regardent. Parce que l'algorithme, en vrai, c'est pas un truc magique, machin. C'est les gens, en fait. Enfin, YouTube, tout ce qu'il veut, c'est pas faire de la magie avec des algorithmes, c'est que les gens y regardent. Parce qu'il faut que les gens regardent la pub. Donc, tout ce qu'il veut, c'est que YouTube... tout ce que veut YouTube, c'est, voilà, c'est que les gens restent le plus longtemps possible, ils regardent un max de pubs. Et pour qu'ils restent, il faut qu'ils passent un bon moment... Avec ce qu'ils regardent. Donc vraiment, faire des vidéos que les gens ont envie de regarder, je pense que c'est hyper important. Donc ouais, voilà, tiens, voilà. Le conseil, c'est mettez-vous à la place des gens qui regardent. Il faut faire ce qu'on aime soi, mais le présenter aux gens d'une manière à ce qu'ils passent un bon moment avec vous. Parce qu'en fait, il y a des relations parasociales qui se créent entre moi qui regarde quelqu'un qui est dans la vidéo. Même si la personne qui regarde pas la vidéo, qui fait la vidéo, elle sait pas qui je suis. Moi, j'ai un peu des sentiments pour cette personne, tu vois. Je l'aime bien, et donc t'as envie de passer du temps avec des gens que t'aimes bien. Et donc la façon dont tu te présentes et la façon dont tu occupes le temps des gens, je pense que c'est important de faire que tes viewers ou tes spectateurs, voilà, et ils passent un bon moment avec toi. Et donc, ça passe par le montage, ou ça passe par, je sais pas, la musique, ça passe par le fait que ta vidéo soit hyper, hyper intéressante. Ça peut être plein de trucs selon les gens. Mais voilà, pensez en principal au public.
Il faut faire des vidéos que t'aimerais bien voir, quoi.
C'est bien comme conseil.
Que t'aurais envie de regarder.
Ben oui, que t'aimerais bien voir, mais voilà, et en essayant de t'imaginer en tant que plusieurs personnes. Parce que peut-être que toi, t'as des goûts tellement machin que ça représente pas beaucoup de gens. Faut quand même, je dis pas qu'il faut faire que pour le grand public, mais essayer en tout cas, de le présenter à des gens qui sont pas toi. Qui, voilà, de rendre intéressant peut-être des trucs. Parce que c'est vrai que pour moi, je sais pas, la broderie, voilà, c'est tellement long et enfin, toi-même, tu sais, quoi, les trucs de couture où tu passes des heures et si tu devais tout montrer, ce serait pas palpitant, quoi, la vidéo. Donc, trouver une façon de le présenter et de faire que les gens y comprennent et ils aient envie de savoir et de continuer, voire même d'essayer. Là, c'est le top.
Donner envie aux gens, c'est cool. C'est l'ultime étape.
Donner envie aux gens.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder ?
Le fait d'être sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout sain.
Oh là là.
Alors, je le fais tout le temps et je le regarde et j'adore et voilà. Mais se mettre la pression sur les réseaux sociaux, ça peut entacher vachement la créativité. Et on a besoin de créativité tout le temps dans ça. Donc, il y a un côté... c'est facile à dire, mais se mettre moins la pression par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'il y a toujours quelqu'un de mieux que vous, et même si vous devenez super fort en je sais pas quoi, et ben il y aura toujours quelqu'un de mieux qui fait tout mieux et qui a peut-être plus de moyens ou peut-être qui est plus talentueux, et c'est dur parce qu'on passe notre vie à se comparer, enfin moi la première hein, clairement et du coup arriver à se détacher de certains trucs, c'est le plus important pour pouvoir garder la créativité et garder la niaque, quoi, de continuer à fabriquer, à faire des choses. Donc je dirais ça, même s'il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, je pense que c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est un des trucs les plus qui me touche le plus et dont je souffre régulièrement, et enfin, c'est par phase, et je vois plein de gens qui disent, mais non, mais comment tu fais, c'est incroyable, jamais j'y arriverai, ou jamais j'arriverai à poster tous ces trucs et machin, et je dis mais je pleure quand je le fais. tu crois que c'est facile, mais non, pas du tout. Tout le monde en chie en fait. Et ceux qui en chient pas, c'est parce qu'ils ont des gens pour les aider. Tu vois, ils ont des équipes ou ils ont des moyens, des machins, des trucs. Donc, à titre individuel, ne pas se mettre la pression, c'est hyper important pour pouvoir continuer. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de continuer à faire. Et du coup, de se débarrasser des choses. Que ce soit moralement se débarrasser de la pression ou se dire moi je ferai pas du TikTok parce que c'est trop de travail, parce que c'est machin, tu vois, de se dire moi je fais pas ça ou moi je réponds pas aux commentaires ou moi je voilà, enfin moi ça m'a aidé vachement, tu vois, de me dire bon ok, ça j'arrive pas, j'ai pas les épaules pour faire ça, je le fais pas, et une fois que tu te dis bon bah puisque je le fais pas, soudain ça, t'as beaucoup moins de stress et de machin, trouver les choses les pires et essayer d'une façon ou d'une autre de s'en débarrasser pour pouvoir continuer à créer. C'est bien comme conseil ?
C'est, franchement, oui, et je plus sois. J'abonde.
Merci.
Non, mais carrément. Ne pas se forcer et surtout, enfin, moi, je regarde très peu ce que font les autres parce que ça, j'ai pas envie de me mettre la pression et je sais, enfin, voilà, que ce que je fais n'est pas parfait. J'ai pas envie de m'en rendre compte encore plus. Donc je fais mon truc et je réponds très peu aux commentaires et voilà, j'essaye de me couper justement de tout ça, sauf si vraiment il y a un gros problème, évidemment, si un jour je sors un truc qui est moyen et que ça marche pas, enfin pas que ça marche pas mais que ça déplaît ou qu'il y a un vrai souci, je vais évidemment le prendre en compte, mais voilà, j'essaye au maximum de me couper aussi.
Ouais, j'imagine pour toi l'extérieur. C'est le même genre de problème. Mais c'est dur, hein, c'est dur. C'est facile à dire, mais
Je pense qu'il y a c'est progressif, c'est-à-dire au début, quand tu lances ta première vidéo, t'as un commentaire, évidemment que tu lis, t'as une alerte, tu reçois un mail généralement de YouTube pour dire « Vous avez un premier commentaire de machin ou machine ?» tu y réponds, etc. Et puis au fur et à mesure, le nombre de commentaires augmente. Il y a des choses qui sont pas forcément moi j'ai jamais eu vraiment de trolls ou de gens enfin en tout cas j'ai l'impression qu'ils me détestent et du coup qui commentent mal ou qui insultent ou ce genre de choses, donc ça va, Et je pense que YouTube aussi a des, je suis pas allé voir d'ailleurs, a des blocages, il y a des mots-clés qui se bloquent et tout, et du coup, il doit y avoir un certain nombre de trucs que les créateurs ne voient jamais, heureusement. Mm-hmm. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai trappé des choses, comme tu dis, et j'ai arrêté de faire des trucs qui m'apportent rien, en fait, ou qui, au contraire, me bloquent et vont me stopper dans ce que je suis en train de faire.
Ouais, ouais, le truc le plus important, c'est ce que tu disais, c'est la régularité. Alors que ce soit, quel que soit
le domaine.
Non, l'intervalle de régularité, si c'est une fois par semaine ou une fois par mois, tu vois. Mais de pouvoir continuer sur la durée, parce que YouTube ou TikTok ou enfin tous les réseaux, c'est épuisant. C'est épuisant moralement, surtout pour un truc créatif où il faut garder ton étincelle. Donc, trouver un moyen de psychologiquement arriver à continuer et que ce soit, voilà, par exemple, voilà, les commentaires, moi je réponds plus aux commentaires. Parfois un ou deux si vraiment j'ai la motivation, mais je réponds plus aux commentaires. Et ben ça, c'est, ouais, ça a changé toute ma vie. Quoi, parce que le stress, tu sais, qu'au début, tu réponds un peu, puis il y en a tellement. Et puis les gens sont pas. Tu vois, tu sais pas qui sont les gens à chaque fois. Pareil, j'ai pas beaucoup de trolls, de trucs méchants. J'ai parfois des mecs creepy, mais bon, ça.
Je crois que c'est le lot de toutes les nanas sur les réseaux,
ouais,
malheureusement.
C'est ça. Bon, c'est pas. J'ai pas le pire du pire, parce que j'ai une audience très féminine, en fait. Donc. Bah ça va, j'ai pas trop des mecs méchants. Puis de toute façon, tu dégages, tu réponds pas, ça va. Voilà. Mais sur les commentaires, on va dire bateau, parfois il y en a qui sont un peu négatifs dans le sens t'aurais dû faire ça plutôt. Ou alors ouais, ça j'aime pas. Machin. Et en fait, t'as aussi beaucoup de gens qui sont. Alors je dis pas qu'ils sont bêtes, mais qui mettent des commentaires bêtes ou qui mettent des trucs parce qu'ils ont pas regardé la vidéo ou deux morceaux ou alors peut-être ils parlent pas anglais, enfin, tu vois, ils expriment pas forcément exactement ce qu'ils voulaient dire, mais toi tu lis le truc et en fait j'ai pas la capacité de cerveau pour me mettre à la place de chaque personne, me dire alors attends, qu'est-ce que cette personne a voulu dire, comment est-ce que je lui réponds, ou alors je lui explique ça parce que j'ai expliqué ça dans une autre vidéo et blablabla. Enfin, en fait, j'ai pas le cerveau pour faire ça pour chaque personne.
T'as pas le cerveau et t'as pas le temps.
Voilà, bah, bien sûr, ouais. Et encore, je suis pas une méga star de YouTube. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens, c'est encore pire, mais donc voilà, de se dire bon, bah, ça, je peux pas. Il faudrait, ce serait cool de répondre à tous les commentaires. Ça aiderait vachement à plein de trucs. Mais en fait, non. C'est pas possible. Et voilà, donc c'est ça sur plein de trucs.
Ariel, ce sera possible quand tu auras ta petite équipe, justement.
Avec ouais,
ton ou ta community manager qui répondra à tout le monde ou qui renverra vers d'autres vidéos. Tu vois, ça va créer un processus, une boucle qui fait que ça marchera d'autant mieux.
Ah bah là-dessus, le truc qui a aidé, alors c'est vrai que je suis pas encore à avoir une équipe de ouf, mais j'ai un manageuse, enfin un agent. J'ai signé avec une agence qui gère les sponsors. Alors il gère rien, il s'occupe pas de mon contenu, il me donne aucun conseil ni rien du tout. Il gère que les mails et les sponsors. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dans l'ordre d'idée des commentaires, ne plus gérer les emails, parce qu'avant j'étais ça, je devais, tu vois, répondre à tous les emails, faire des recherches, parce que, enfin, j'imagine que toi c'est pareil, on reçoit un nombre de trucs, mais qui sont des grosses arnaques, qui sont des trucs louches, qui sont des, et du coup faut rechercher chacun en disant attends, non, ça, et ça prend un temps fou aussi, pour qu'en plus la plupart soient de la flûte, quoi. Et donc, ouais, depuis que j'ai des agentes qui gèrent ça pour moi, je ne regarde même plus. Et elles ont genre quintuplé mes revenus, sans que moi j'ai besoin de rien faire parce qu'elles sont payées à la commission. Donc, en vrai, moi je les paye pas, tu vois. Elles, tout ce qui compte, c'est que moi je gagne un max, parce que comme ça, elles gagnent un max. Donc, en vrai, si jamais vous commencez à grossir un peu sur YouTube, dès que vous pouvez, prenez, allez voir des agences. Pour qu'ils gèrent juste vos emails, parce que voilà, la négociation, c'est horrible.
Et négocie les contrats, parce que c'est pas notre taf, quoi.
Oui, et puis tu sais pas. Genre, moi, je me souviens, j'avais négocié des trucs avec machin, Skillshare, NordVPN, et j'avais l'impression d'avoir envoyé 12 emails, puis j'avais l'impression de déranger, de dire, mais non, mais ça, c'est pas beaucoup, quand même. Et puis, tu vois, en cherchant, machin. Et puis, en fait, au final, toute cette pression et en fait au final pour avoir disons que par rapport à mes chiffres j'aurais pu avoir mais voilà 5-10 fois plus juste parce que moi je quiche en négociation puis on sait pas quoi, il n'est pas marqué quelque part
on sait pas combien on vaut en fait, c'est le vrai souci.
Bah oui c'est ça, alors que les agences elles savent donc autant laisser ces gens gérer ça et voilà, donc bon c'est faites pas ça dès le début de vos trucs sur les réseaux, mais et je sais pas s'ils font, j'imagine que ça doit être pareil sur tu disais TikTok et tout ça, est-ce que d'autres réseaux enfin moi je fais pas de, je gagne pas d'argent avec mes autres réseaux, voilà, Instagram et tout ça rien du tout, enfin si j'ai 1,26€ en 6 mois,
pas mal,
voilà. Donc on paye pas trop son loyer avec ça.
Non mais tu peux acheter 1 mètre de billet et ça c'est cool.
C'est vrai, mais sans les frais de port.
Ouais, oui, c'est vrai.
Donc voilà, mais j'imagine que voilà, sur tous les réseaux, ça doit être ça. Tu dois avoir des gens qui savent un peu comment monétiser ton travail, quoi. Si c'est ça que les gens veulent. Parce que c'est OK aussi de poster ces trucs, pas pour devenir pro, pas pour gagner sa vie. Et ça, c'est aussi un gros poids que tu enlèves si tu décides que tout ce que tu mets sur les réseaux, c'est juste pour partager et pour le plaisir de partager, parce que c'est cool aussi, et pas pour te professionnaliser. Parce que je vois beaucoup de gens qui mettent tous leurs trucs et ça marche. Parce que pour la plupart des gens, ça ne va pas marcher, en fait. C'est pas souvent que ça marche. Enfin, je sais que j'ai de la chance. Je suis peut-être pas la plus grande youtubeuse du monde, mais arriver à en vivre, je sais que c'est pas du tout la majorité des gens. Et donc, ça peut être super dur de mettre tout ton cœur dans des trucs et derrière, si ce que tu veux, c'est que ça marche suffisamment pour pouvoir en vivre, la plupart du temps, ça arrive pas. C'est pas impossible, mais voilà. Et du coup, c'est super dur pour ces gens-là. Et donc, de se dire, je fais mes trucs juste pour le plaisir de faire mes trucs, ça peut énormément aider à, tu vois, à se libérer et à développer sa créativité, de dire je m'en fous, je fais juste parce que ça me plaît et puis je fais pas parce que voilà, et donc il faut faire comme ça, comme ça, comme ça pour que ça plaise. Mais non, faites comme vous voulez et peut-être même que justement ça plaira plus. Mais de se dire ça, je pense que ça aide beaucoup de gens. Enfin, j'ai vu des gens shifter comme ça autour de moi en disant non mais bon tant pis. J'y arriverai jamais, donc je vais plutôt faire ça comme ça. Et maintenant, ça va tellement mieux. Donc voilà. Le côté vraiment psychologique, la pression des réseaux sociaux, c'est dur à gérer.
Parfait. Merci Ariel.
Eh ben écoute, c'était cool. J'espère que ça plaira à tes auditeurs et tes auditrices.
Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'ici. Vous faites partie des rares à entendre le générique de fin, bon, qui est le même que celui de début, mais voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que certaines et certains vont aussi loin dans le podcast. Ça fait quoi là? Ça fait quasiment une heure, waouh! Je vous mets dans les notes de l'épisode les liens pour retrouver le travail d'Ariel. Vous allez avoir sa chaîne YouTube, également son Instagram. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour parler de couture avec une nouvelle créatrice. Je sais d'ores et déjà que ce sera une fille. Et puis d'ici là, moi, je vous encourage à coudre, à aller voir ce que je fais sur YouTube, sur Insta, sur mon blog. Et puis voilà. À très bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.